Mon message s'intitule « Mangeons-nous la même nourriture que Jésus? » Et c'est une réflexion sur notre thème qu'on a eu pendant le mois d'avril, la mission. Comment devenir un peuple missionnaire? Comment devenir une église missionnaire? Parce que c'est ça, durant le mois d'avril, on a considéré la mission, sa réalité, les expériences vécues aujourd'hui, la priorité de la mission. On a écouté Timothée Wiesner, on a écouté Gary et Sharon Howell, on a écouté David et Teresa Tracy, et ils nous ont rappelé ce grand commandement de Jésus quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Puis, il y a aussi cet appel spécifique à aller jusqu'au bout du monde. Et c'est Jésus encore qui dit dans Actes 1-8, « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, ce thème de la mission est pertinent pour nous à l'Oasis. Il se trouve que dans les objectifs qu'on s'est donnés comme Église, on les appelle les 5 focus de notre mission, eh bien, vous verrez que c'est très relié à la mission que Dieu nous donne. Je pense qu'Andrew est parti avec la petite... c'est Timothée. Parfait. Merci beaucoup. Répète ça. Timmy a tout le temps tout. Essaye de dire ça 3 fois de suite sans te tromper. Bravo. Alors, l'Oasis, les 5 focus de notre mission, former chaque personne comme disciple. Je ne dis pas qu'on le fait bien, mais je dis que c'est ça qui a toujours été notre but. Deuxièmement, faire connaître Jésus autour de nous. Ensuite, répandre sa justice. Oh, merci. Merci beaucoup. Répandre sa justice et sa compassion. Bâtir l'unité dans la diversité. Et finalement, prendre notre place dans la mission mondiale. Dans toutes ces priorités, on voit que on veut être une église en mission. Et je dirais même, on veut être des individus, les membres de cette communauté, on veut être des individus qui vivent toute leur vie en mission. Pas juste des chrétiens du dimanche. On ne veut pas juste être une église du dimanche, ni des chrétiens du dimanche, mais on veut être en mouvement, on veut être en mission. Et quand on vit notre vie dans la mission que Jésus nous donne, et il en donne une à chacun de nous, bien, c'est une joie, c'est passionnant. Et je dirais même, et c'est Jésus qui le dit, c'est une nourriture, c'est une bonne nourriture, c'est un festin. C'est la meilleure vie possible, que tu sois jeune ou vieux, grand ou petit, garçon ou fille, oui. On me dit, il faut que je parle dans le micro. Merci beaucoup. Comment arriver à cette vie-là? Comment changer pour m'engager dans cette direction? On va considérer ce matin un épisode de la vie de Jésus où c'est lui-même qui nous montre qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu en mission. Qu'est-ce que ça doit être? Puis il nous dit aussi qu'est-ce que ça ne doit pas être. En fait, on va revisiter l'histoire de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Mais en fait, on va lire cette histoire à travers les yeux d'un évangéliste, à travers les yeux d'un missionnaire, littéralement. j'ai entendu une interprétation de Jean chapitre 4, l'histoire de Jésus et la femme samaritaine, par un évangéliste qui s'appelle Raphaël Anzenberger. Je vais l'appeler Raphaël parce que son nom de famille est difficile à prononcer. Et c'est sur le site web des groupes bibliques universitaires et collégiaux que j'ai entendu sa présentation. Et ça m'a beaucoup touché. Puis je pense que ça m'a touché pour moi-même, mais aussi pour vous, pour l'Oasis aussi. Les évangélistes, ils ont certaines lunettes qu'on a besoin, nous, qui sommes moins évangélistes ou pas évangélistes. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je dois vous dire, je me suis inspiré de plusieurs choses que Raphaël dit. Et si ça vous intéresse d'entendre sa conférence, je peux vous envoyer le lien. Il y a Mimi qui me l'a déjà demandé. Alors, s'il y en a d'autres qui aimeraient le lien, je peux vous l'envoyer. Alors, lisons le texte dans Jean 4, mais d'abord, prions. Merci Seigneur pour ce texte, qu'il rentre dans nos cœurs, qu'il nous change, que l'Esprit Saint nous travaille. Merci pour les évangélistes, ceux à qui tu as donné ce don, et pour le regard spécial dont on a besoin. Parfois, ça nous dérange, ceux qui ont le fardeau de l'urgence d'aller vers les âmes perdues. Mais on a besoin d'eux. On a besoin de les écouter. Ils font partie de ton corps. Merci aussi pour les missionnaires qui sont saisis par l'urgence et qui vont jusqu'aux extrémités de la terre et qui vont vers les peuples non atteints, qui sont parfois ceux qui sont les plus ouverts. Et on pense à Tim, je ne sais pas s'il est ici ce matin, Timothée. Je ne le vois pas, mais l'autre Timothée. Mais tu vois qu'il sent qu'il a reçu cet appel. Bénis-le ce matin, dans sa préparation. Oh Seigneur, guide-nous maintenant, au nom de Christ. Amen. Alors, on va lire le texte. Et vous allez voir, on ne va pas tout lire, mais les parties qui sont intéressantes, peut-être pour les évangélistes, quoique tout est intéressant, mais on va lire certains paragraphes de cette histoire. Donc, Jésus et ses disciples font du ministère en Judée. La Judée, c'est comme là où est Jérusalem, et il y a des problèmes, il faut qu'ils partent. Et donc, ils vont retourner en Galilée, continuer leur ministère là. Donc, ils sont en transit. Et c'est marqué que, alors, Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Il est avec ses disciples. Et comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar. Je pense que c'est Naplouse aujourd'hui, pour ceux qui visitent Israël. En tout cas, c'est près du champ, nous dit le texte ici, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné l'eau vive. » Là, je saute plus loin dans le texte. Il y a une très grosse et belle conversation entre Jésus et cette femme, mais plus loin dans le texte, au verset 27, il est dit, « Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu? » ou « Pourquoi pars-tu avec elle? » Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient en disant, « Maître, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres, « Est-ce que quelqu'un y aurait apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Je saute encore un petit peu. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux et il resta là 2 jours. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alors, la leçon qui se dégage de cet épisode est simplement ceci. Pour devenir cette Église, pour devenir cette personne qui vit comme Jésus le veut, il nous faut apprendre à manger cette nourriture que Jésus a mangée. Donc, pour devenir cette Église ou cette personne qui vit comme Jésus le veut, il nous faut apprendre à manger cette nourriture que Jésus a mangée. Et ça sera bon. C'est bon. On va voir que c'est la mission qu'il nous donne qui est cette nourriture. On va voir qu'il y a 3 enseignements dans ce texte que Jésus nous donne en tant qu'évangéliste ou comme missionnaire. Un des 3 est plutôt positif. Voici un exemple à suivre. Et 2 qui sont plus négatifs, mais c'est important quand même. Des erreurs à ne pas faire. Il est en train de corriger ses disciples, mais c'est pour notre bénéfice à nous aussi, parce qu'on tombe dans les mêmes difficultés, nous autres aussi. Alors, allons-y pour le premier enseignement. Le premier est le suivant. C'est un positif, celui-là. Jésus veut qu'on comprenne que la mission, c'est vraiment une bonne nourriture. Et la mission, en fait, c'est quelque chose de simple, on va le voir, c'est recevoir l'amour de Dieu pour la transmettre à quelqu'un qui ne la connaît pas encore. Et évidemment, ça peut aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais ça peut commencer dans notre maison. Ici, dans cet épisode, Jésus vient d'annoncer la bonne nouvelle de la vie éternelle à la femme samaritaine. Et puis, lorsque les disciples reviennent et ils lui disent, en quelque sorte, là, je paraphrase, parce qu'une partie, c'est leur pensée, puis une partie, c'est leur parole, mais ils disent, bien, OK, Jésus, c'est un peu bizarre, là, mais c'est correct, là, c'est bien, tu parles avec elle, mais tu as voyagé toute la journée, nous autres aussi. Tu es fatigué, nous autres aussi. Tu as faim, nous autres aussi. Tu as hâte de sortir d'ici, nous autres aussi. Mange ton lunch qu'on t'a acheté. Mais Jésus, il étonne tout le monde, il répond, « J'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. » Ma vraie nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. On voit ça dans les versets 31 à 34. Et c'est quoi la volonté du Père de Jésus? C'est quoi cette volonté-là? Il l'explique à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 6, au chapitre 17, au chapitre 20, on pourrait le résumer comme ceci. Connaître Dieu et le faire connaître. Connaître Dieu et le faire connaître. Ou on pourrait utiliser le langage de l'amour aussi. Recevoir l'amour de Dieu pour ensuite le transmettre à d'autres qui ne le connaissent pas encore. Oui. Il est parfait. Correct. Expérimenter son amour, le transmettre à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Même les jeunes, même les enfants peuvent faire ça. Il faut que cette volonté de Dieu, de le connaître et de le faire connaître, devienne la priorité numéro un dans notre vie. Pas juste en théorie, mais en pratique aussi. Je me souviens d'une histoire que mon beau-frère Glenn m'a racontée il y a très, très longtemps quand il était évangéliste sur les campus. Puis ça fait tellement longtemps que peut-être il s'en souvient même pas lui-même. Mais moi, ça m'avait marqué. Et donc, vous voyez que je ne l'ai pas appelé pour dire « Est-ce que je peux raconter cette histoire à l'Oasis dimanche prochain? » Mais je suis sûr que c'est lui qui m'a raconté ça. Il travaillait sur les campus, ça fait bien des années. Il avait passé toute une soirée avec des étudiants qu'il formait à l'évangélisation. Et il les accompagnait, et ce qu'il faisait, c'est qu'ils abordaient les étudiants à la cafétéria qui étaient assis là, des inconnus. Ils s'assoyaient à côté d'eux, ils étaient deux ou trois. Il leur demandait leur point de vue sur les questions religieuses. Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de la religion? C'est quoi ton opinion sur Jésus? Et après ça, il les invitait. Est-ce que tu serais d'accord qu'on te présente un résumé de l'Évangile? Et c'était du travail ardu, puis vous pouvez imaginer qu'il y avait beaucoup de refus, beaucoup de rejection, de rejet. Mais parfois, il y avait un intérêt et parfois une conversation fructueuse. Mais la soirée s'allongeait et puis les deux apprentis, finalement, sont partis chez eux. Et mon beau-frère, Glenn, il se réjouissait, lui, de partir, de rentrer chez lui. Il était fatigué. Il voulait se reposer. Il voulait sa collation. Il voulait retrouver son épouse et il se disait, je le mérite en plus, mon travail est accompli, mon repos est bien mérité. Mais du coin de l'œil, il a remarqué qu'il y avait un étudiant tout seul, assis dans une table, à une table dans un coin de la cafétéria. Et Glenn racontait qu'il sentait que l'Esprit-Saint, à l'intérieur de lui, lui parlait intérieurement, va parler à ce gars. Puis, il dit, il y avait un combat intérieur, à l'intérieur de Glenn. Seigneur, j'ai accompli ma job. Je suis fatigué. Mes assistants sont partis. On a abordé plusieurs personnes. On a déjà eu une couple de bonnes conversations. Apparemment que l'Esprit-Saint insistait. Alors, Glenn a obéi, il a approché ce jeune homme et ce fut la meilleure conversation de toute la soirée. Et si je me souviens bien de l'histoire, ce jeune homme a vraiment été interpellé, puis ce jeune homme s'est joint au groupe chrétien du campus. Donc, c'était vraiment fructueux. Et Glenn a dit, ça m'a apporté une très grande joie. Ça l'a rempli son âme comme si un festin spirituel était descendu du ciel et qu'il l'avait savouré. Vous voyez que mon beau-frère était en train d'apprendre quelque chose. Le Seigneur lui enseignait à manger la vraie nourriture spirituelle, qui est de faire la volonté du Père Céleste. Et ça, ça tourne beaucoup autour de recevoir l'amour de Dieu et puis la transmettre à quelqu'un qui ne la connaît pas encore. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Il a mangé cette nourriture spirituelle, même si son corps et son âme intérieure réclamaient autre chose, quelque chose de plus matériel, du repos pour le corps. Rentrer dans son auto puis mettre la radio avec sa musique préférée. Retrouver son épouse et recevoir sa sollicitude, sa consolation. Puis sans doute une bonne collation aussi, comme j'ai dit tantôt. Mais grâce à Jésus, il a pu dire, au bout du compte, « Ma vraie nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » En réalité, l'un n'exclura pas l'autre, parce qu'à un moment donné, il faut se reposer, il faut manger. Mais c'est quoi ta priorité? Dieu n'est pas contre les choses matérielles, comprenez-moi bien. Il les a créées, il sait qu'on en a besoin. C'est pourquoi il promet ceci. Dans Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez d'abord mon royaume et mes actes de justice. » Pratiquez-les, autrement dit. Cherchez-les, pratiquez-les. Puis toutes ces choses matérielles vous seront données en plus. Alors, c'est une question d'avoir les bonnes priorités, puis de les vivre. Puis, il y a aussi une leçon ici par rapport au repas auquel Jésus nous invite ce matin. La Sainte Cène, le repas du Seigneur. On va partager ce repas tout à l'heure. Alors, ce repas-là, je dirais que ce n'est pas une fin en soi. Oui, c'est précieux, c'est merveilleux. Jésus vient à notre rencontre. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas le but ultime. Tu ne peux pas, ma sœur, mon frère, tu ne peux pas venir le premier dimanche du mois. Quoique, faut que tu viennes. Je t'invite ardemment à venir et à participer. Mais tu ne peux pas juste venir puis cocher ta checklist, ta liste de tâches et dire... J'ai accompli ma mission religieuse, j'ai mangé le pain, j'ai bu la coupe. C'est pas ça. C'est que tu prends, tu manges, tu bois, et c'est un moment, oui, où tu peux sentir que tu reçois cet amour de Dieu. Mais en mangeant, tu acceptes d'entrer dans une nouvelle réalité qui va t'occuper toute la semaine. La mission. Tu entres en mission. En mangeant ce matin, on va s'engager à la mission que Jésus nous donne, 24/7. Recevoir l'amour de Jésus non-stop, la transmettre aux autres, 24/7. Amen? As-tu perdu de vue la mission que ton Père t'a donnée? Que c'est vraiment ta nourriture prioritaire. Ce matin, demande à Jésus de changer ton cœur, qui t'aide à redresser tes priorités. Deuxième enseignement, on va dire négatif, mais il est positif. C'est de ne pas nous laisser aller à devenir aveugles à ce qui se passe spirituellement dans les situations. On vit dans un monde où Dieu est partout. On vit dans un monde où il y a des miracles dans l'invisible, tout partout autour de nous, tout le temps. Et certains philosophes parlent du désenchantement du monde, dans le monde postmoderne dans lequel nous vivons, où tout est matériel, puis tout peut être traduit dans des formules économiques. Non. Dieu est à l'œuvre. Il ne faut pas qu'on devienne aveugle à ce qui se passe spirituellement dans les situations. Et dans cette situation bizarre de Jésus en Samarie, au bord du puits des Samaritains, Jésus, il a discerné le besoin spirituel d'une femme qui lui était inconnue et qui, en tant que juif, lui était inconfortable. Puis, il faut penser à elle aussi. Lui, il était inconfortable pour elle. C'est pour ça qu'elle a dit, « Mais pourquoi tu me parles, là? Les gens qui nous écoutent, ils vont pas être contents avec toi, ils vont pas être contents avec moi. Pourquoi tu me parles? » Mais Jésus a discerné dans l'invisible. Et parce que Jésus a agi sur cette base de ce discernement, en fait, lui, mais la femme aussi, ils ont festoyé sur une délicieuse nourriture spirituelle. Une situation où l'amour de Dieu a pu passer entre deux personnes. Les disciples, par contre, on les voit arriver. Et ils étaient quand même occupés. Ils étaient quand même à l'œuvre, eux aussi. Ils étaient peut-être aussi heureux d'avoir réussi leur mission. Ils reviennent et ils ne voient rien, eux autres, de tout ce que je viens de dire. Ils croient que ce qu'eux, ils font, c'est le plus important. Ils ont trouvé le magasin qui accepte de vendre à des Juifs. Ils achètent le lunch pour le groupe. Donc, ils préparent le pique-nique. Ils le ramènent pour qu'ils puissent manger ensemble pour repartir, parce que leur but, c'est d'aller en Galilée, où ils vont être en sécurité. Jésus arrête de parler à cette femme. Jésus arrête de causer des délais dans notre voyage, des délais inutiles. C'est une Samaritaine, jamais qu'elle va comprendre les choses de Dieu. Mange vite pour qu'on puisse continuer le voyage. Sortons de cet endroit inconfortable. Mais Jésus, comme j'ai dit, a discerné autre chose. Un mouvement divin dans la dimension spirituelle. Il y avait de quoi de gros qui se préparait entre Dieu et cette femme. Et même au moment où il a un petit répit, parce qu'elle, elle laisse sa cruche, elle s'en va chercher ses amis, il y aurait le temps pour un petit pique-nique peut-être. Mais on dirait qu'il n'a pas eu lieu ce pique-nique. Jésus ne mange même pas. Enfin, c'est mon impression du texte. Il va manger plus tard. Il est en train de manger la nourriture de son Père céleste. En plus, à cause de ce que Dieu est en train de faire, pensez à ça une minute, Jésus décide de rester 2 jours de plus. Il va aller dormir chez des inconnus, du monde impur, parce que pour les Juifs, les Samaritains, c'était des hérétiques qui s'étaient rendus impurs devant Dieu, et donc pour les Juifs aussi. Il ne fallait pas manger avec eux, il ne fallait pas dormir dans leur maison. Alors, il amène les disciples avec lui pour dormir chez les Samaritains. Pensez-vous que les disciples étaient contents? Non. Je ne pense pas, hein? Mais il fallait qu'ils apprennent à voir ce qui se passe spirituellement dans les situations, à ne pas se fermer les yeux. Et toi, ma sœur, as-tu perdu cette capacité de voir dans les situations de la vie, le besoin spirituel des âmes perdues? Mon frère, as-tu perdu cette sensibilité de sentir les mouvements de Dieu? Dieu a un mot pour cette personne qui est avec toi. Ou peut-être ce n'est pas un mot, c'est peut-être qu'il faut que tu arrêtes pour prier parce que la personne qui est avec toi, qui n'est pas prête à écouter, mais Dieu est à l'œuvre. Ce matin, demande à Jésus de changer ton cœur, de t'aider à corriger tes priorités. Et toi qui es nouvel arrivant au Canada, toi qui te retrouves dans ce beau pays, je sais que ce n'est pas un si beau pays que ça, toujours. Il y a bien des difficultés ici. Mais si tu es ici, c'est que souvent, c'était plus difficile, beaucoup plus difficile d'où tu viens. Mais pourquoi es-tu ici vraiment? Est-ce que c'est pour la nourriture d'en bas ou pour la nourriture d'en haut? Es-tu ici pour mieux gagner ta vie? Es-tu ici pour assurer un meilleur avenir matériel pour ta famille? Si c'est pour ça que tu es ici, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais qui va te confronter. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand pour toi, ici au Canada. Il faut que tu te réveilles à ce qui se passe dans le spirituel au Canada. Dieu t'a amené ici pour participer à quelque chose de grand. Jésus veut que tu saches que tu n'es pas dans ce nouveau pays pour être un chrétien du dimanche seulement. Un travailleur pour le pain d'ici-bas pendant le reste de la semaine. Non! Tu es son missionnaire 24/7. Mauvaise nouvelle, mais c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'il va te donner le reste en plus. Et il va te faire participer à quelque chose d'extraordinaire. Le troisième enseignement, Jésus nous dit, ne deviens pas aveugle à l'importance de chaque personne. Dans ce monde, c'est facile pour nous, comme pour les disciples, de penser que cette personne qui est différente de moi, cette personne qui, dans la hiérarchie sociale non écrite, est inférieure à moi, cette personne qui peut-être est critiqué par la société, cette personne qui ne fait pas partie de mon groupe à moi, elle n'est pas digne de mon temps, elle n'est pas digne de ma considération, elle n'est certainement pas digne de ma mission. C'est ce qu'on voit dans la pensée des disciples. Pourquoi il parle à cette femme? Apprendre à manger la nourriture spirituelle que Jésus mange, c'est voir qu'aux yeux de Dieu, chaque personne est importante. Chaque personne est digne de son salut, puis chaque personne a désespérément besoin de l'Évangile. Amen. Tout le monde est invité à la table de Dieu. Tout le monde est invité. Et c'est pour ça que les églises deviennent bizarres. Les églises sont censées devenir bizarres parce qu'il peut y avoir toutes sortes de monde qui viennent. Bien, je vous regarde, vous êtes bizarre. Non, c'est pas vous qui êtes bizarre. Vous n'êtes pas bizarre, mais la combinaison de gens peut devenir bizarre. Je vous aime. Il y a un petit bizarre qui lève la main. Oui, Timothée, qu'est-ce que tu veux me dire? Unique, oui, c'est beaucoup mieux. On est tous uniques et ça crée des combinaisons nouvelles. Tout à fait. Tout le monde est invité à la table, moyennant la foi, moyennant de reconnaître Christ comme le Seigneur. Alors, un aspect justement important de cet apprentissage pour les disciples, c'est de se préparer à ce qu'on appelle la mission transculturelle. Au début, le ministère de Jésus et de ses disciples était ce qu'on appelle monoculturel. Mono veut dire une seule, culturelle, culture. C'était des Juifs envers des Juifs. C'était comme ça que ça a commencé, puis c'est très bien. Mais il préparait les disciples pour ce que nous, on connaît, aller vers le monde entier. Et cette rencontre avec la Samaritaine, dans l'Évangile de Jean, c'est leur première leçon. Et c'était difficile, c'était inconfortable. Mais Jésus les préparait pour la mission transculturelle, où est-ce que tu valorises la personne que tu ne comprends pas. Et tu as peut-être des préjugés sur elle que tu dois apprendre à défaire. Puis il fallait que leur identité change aussi. Quand je dis ça, c'est que je pense à l'apôtre Paul, qui est un de mes préférés. Vous savez que j'ai beaucoup étudié la vie et, et les écrits de saint Paul, mais Paul, avant de rencontrer Jésus, il disait, « Moi, mon identité, c'est clair. Je suis un juif de juifs. Mes parents, c'était des juifs de juifs, et je suis un juif, puis un des meilleurs à part de ça, au niveau de ce qu'un juif doit pratiquer. » Et une fois que Jésus l'a sauvé et appelé, parce que les deux vont ensemble, Jésus nous sauve, puis il nous appelle à quelque chose, à une mission. Paul va plutôt parler comme ceci à propos de sa vraie identité. Il dit dans Galates 1,15, « Dieu m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. » Il se définit maintenant par quelque chose qui s'est passé avant sa naissance. Donc, au fond de lui, c'est sûr, il est juif de culture, mais sa vraie identité, c'est quelque chose qui s'est passé avant même qu'il apprenne la culture juive. Et ça lui donne une nouvelle perspective sur les gens autour de lui. Et toi, ma sœur, mon frère, as-tu perdu la valeur de chaque personne aux yeux de Dieu? Est-ce que tu demeures attaché à une identité humaine qui t'empêche de rentrer plus profondément dans le festin de Dieu? Ce matin, demandons à Jésus de changer notre cœur, nous aider à corriger nos priorités. On va conclure maintenant. Attendez. OK. Oui, on va conclure. Trois leçons. Comprendre que la mission, c'est vraiment une bonne nourriture dans ma vie. Deuxièmement, ne pas devenir aveugle aux situations. Et troisièmement, ne pas devenir aveugle à la valeur de chaque personne. Retenons cette leçon pour devenir cette Église, pour devenir cette personne qui vit comme Jésus le veut. Il nous faut apprendre à manger la nourriture que Jésus a mangée. La mission. Donc, comme j'ai dit, on va bientôt participer au repas du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est qu'on lui demande de nous visiter dans nos cœurs ce matin pour corriger nos priorités. Il connaît nos cœurs. On a tellement besoin de lui. Puis, une autre chose qu'on va faire, on va prier pour les évangélistes, ceux qui ont reçu ce don-là, ou ceux qui ont peut-être reçu l'appel de la mission transculturelle, ou bien l'appel vers les peuples non atteints. Alors, je vous invite à prier. On va fermer les yeux et je vous invite à prier cette prière avec moi. Vous n'allez pas répéter après moi, vous allez rester silencieux, mais vous pouvez répéter silencieusement dans votre cœur. Jésus, comment tu as vécu C'est fantastique. Puis quand tu nous demandes de t'imiter, de t'obéir, on n'est pas capable. Et dans ce monde, on se laisse influencer pour devenir aveugle, pour prendre des nouvelles priorités qui ne sont pas les tiennes. Mais tu veux opérer le miracle d'agir dans mon cœur, dans notre cœur, pour redresser mes vraies priorités qui viennent de toi, pour apprendre à manger cette bonne nourriture que toi tu as mangée. Écouter le Saint-Esprit, recevoir ton amour, le transmettre à d'autres. M'engager à toujours mieux te connaître, le partager, faire la différence dans ce monde sans espérance. Si tu te sens interpellé, tu peux lever la main là où tu es. Les gens autour de toi ont les yeux fermés. Dieu verra ta main, Dieu verra ta prière. Dieu voit ta main. Nous prions aussi. Dieu voit ta main. Amen. Et nous continuons, les yeux fermés, nous prions maintenant pour les évangélistes. Ceux qui sentent qu'ils ont reçu ce don peuvent lever leurs mains aussi, pas pour se vanter, mais juste pour dire, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Ceux qui ont l'appel missionnaire, tu peux lever la main aussi. Personne ne va te regarder. Sauf moi. Mais je veux prier. Seigneur, tu vois ces personnes. Ils ont ce fardeau. Ce fardeau d'aller vers les âmes, mais aussi de réveiller l'Église. Ce n'est pas une tâche facile. Confirme leur don. Fortifie leur appel. Et, Seigneur, donne-leur le courage de persévérer dans leur rôle dans le peuple de Dieu et d'aller jusqu'au bout pour participer au festin. Toutes ces choses, nous prions. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Avant de participer au repas, prenons un moment pour nous saluer les uns les autres.